RTL.
Il est 7h.
Il est 7h.
Il y a 20h10 TU sur RFI.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio du Monde, il est 6h en temps universel, 13h à Bangkok.
Pierre Boudias.
Un nouveau journal avec Julien Coquel-Rohem. Bonjour Julien.
Bonjour Pierre. Des élections législatives anticipées en Thaïlande et les réformistes d'opposition en tête des sondages. Le Parti du Peuple porté notamment par la jeunesse, mais qui n'est pas sûr pour autant de prendre le pouvoir aux conservateurs. Reportage à Bangkok dans un instant. Les urnes prêtes à ouvrir aussi au Portugal. Une présidentielle qui se dénouera au second tour pour la première fois dans le pays en 40 ans et en présence de l'extrême droite. L'actualité ce matin, c'est aussi le départ du directeur général du Washington Post. Quelques jours seulement après le licenciement de plus d'un tiers des employés du quotidien. Dans ce journal également, de nouvelles violences et de nouveaux déplacés au Tigré en Éthiopie. Les camps de déplacés de la guerre de 2020-2022 voient de nouveaux occupants s'y installer. Et puis avant le journal des sports et le point sur les premières médailles des JO d'hiver, de l'alpinisme virtuel à la fin de ce journal, avec un jeu français et son succès inattendu.
Ce scrutin peut-il sortir la Thaïlande de l'instabilité politique ?
Alors que le pays a connu 3 premiers ministres en 2 ans, 53 millions de Thaïlandais appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives anticipées. Dans un contexte morose, une économie ralentie, un secteur du tourisme en berne et des tensions ravivées avec le Cambodge qui ont dégénéré par 2 fois en affrontements meurtriers l'an dernier. Tout cela pourrait-il mener les conservateurs au pouvoir ? À le perdre, le Parti du Peuple d'opposition, incarnation de la jeunesse progressiste, est en tout cas favori dans les sondages. Rencontre avec l'un de ses candidats à Bangkok. Reportage Valentin Sebron.
Il est jeune et idéaliste à 28 ans, sexy Thiem Sangwansak, incarne cette nouvelle génération, décidé à bousculer l'ordre établi. Crédité à 34% dans les sondages, le Parti du Peuple et ses propositions réformistes continuent de séduire une large partie de l'électorat.
Cette fois-ci, nous sommes prêts à gouverner. Nos politiques sont conçues pour être appliquées si nous arrivons au pouvoir.
Ancien militant étudiant, il s'est lancé en politique pour faire entrer dans les institutions les idéaux du mouvement pro-démocratie de 2020 et pour représenter ceux qui ne peuvent plus s'exprimer.
Des amis ont dû partir en exil, plusieurs sont en prison, d'autres encore sont poursuivis dans des affaires politiques qui les empêchent de se présenter aux élections.
Quand le Parti du Peuple a ouvert la porte à des citoyens ordinaires pour devenir candidat, il a alors saisi l'occasion de rejoindre ceux qui veulent tourner la page de la politique à l'ancienne et s'attaquer à la corruption. Mais même si la formation arrive en tête, la tâche s'annonce difficile. Lors du précédent scrutin, son ancêtre avait remporté les élections avant d'être empêché de gouverner puis dissous par une justice proche des élites militaires et conservatrices. Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
Et là encore, le Parti du Peuple pourrait arriver en tête sans prendre le pouvoir. Pour autant, les négociations d'après-scrutin pourraient voir les conservateurs lui barrer la route en signant un accord avec le Parti populiste en 3e place dans les intentions de vote. Des élections aussi au Japon, où les bureaux de vote ont ouvert il y a 6 heures. Élections législatives anticipées, là aussi, à l'initiative de la première ministre ultra-conservatrice Sanae Takaichi, arrivée au pouvoir en octobre. Alors que son parti, le PLD, de droite nationaliste, se portait mal, elle profite de sa popularité retrouvée depuis pour tenter de décrocher une majorité absolue. Et c'est ce que les sondages semblent prédire. Les bureaux de vote ferment à midi, temps universel.
Et puis un dimanche de scrutin également au Portugal.
Avec le dénouement de la présidentielle aujourd'hui, elle se joue au second tour. Pour la première fois en 40 ans, entre le socialiste modéré António José Seguro et le leader d'extrême droite André Ventura, le tout sur fond de violence. Tempêtes qui ont provoqué des dégâts et des inondations dans le pays. Marilyn Darcy.
Le mauvais temps qui frappe le Portugal pourrait influencer le scrutin de ce dimanche. Favori avec 67% d'intention de vote, le candidat soutenu par la gauche, António José Seguro, s'en inquiète. Dans les derniers jours de campagne, il a durci le ton pour dénoncer ceux qui voudraient renvoyer le pays dans le passé. Une allusion claire à son adversaire, André Ventura, crédité de 33% des voix. Chef du parti anti-système et xénophobe, Chega, Ventura affirme vouloir faire le ménage et revendique une certaine admiration pour Salazar qui a dirigé le Portugal jusqu'à la révolution démocratique de 1974, d'où la mise en garde appuyée de Seguro. Tout au poste des deux hommes, le socialiste se présente comme le garant des institutions au-dessus des partis. Ventura, lui, souhaiterait viser la Constitution afin de concentrer les pouvoirs dans une seule fonction, présidentielle ou gouvernementale. La proximité de son parti avec des mouvances néo-nazies suscite l'inquiétude. Les Portugais veulent lui faire barrage. Mais le score de Ventura constituera un indicateur clé de la solidité et de la stabilité de son électorat. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
Et on retrouve notre envoyé spécial Daniel Valo sur place dans notre journal de 8h. Temps universel, ce sera l'heure d'ouverture des bureaux de vote au Portugal.
La démocratie meurt dans l'obscurité.
Le slogan d'un pilier de la presse américaine qui continue aujourd'hui de s'effondrer sous les projecteurs. Après le licenciement de plus d'un tiers de ses journalistes, le Washington Post annonce le départ de son directeur général. Son mandat à la tête du quotidien détenu par Jeff Bezos aura été très controversé, Lubna Anaki.
Des dizaines d'abris.
Lubna Anaki, notre correspondante à New York, qu'on devrait peut-être retrouver dans un instant, le Washington Post, et son directeur général qui vient de quitter son poste après 2 ans en fonction dans ce quotidien détenu par Jeff Bezos, en plein rapprochement entre le milliardaire et Donald Trump.
Dans une note adressée aux équipes du Washington Post, Will Lewis estime que c'est le bon moment pour lui de se retirer. « Durant mon mandat, des décisions difficiles ont dû être prises pour assurer l'avenir du poste », écrit Will Lewis, qui avait été nommé par Jeff Bezos, le propriétaire du journal, début 2024. Sa mission était de transformer le Washington Post après des années de troubles financiers. Sa gestion a provoqué de nombreux remous au sein de la rédaction jusqu'à des manifestations des employés cette semaine après le licenciement d'un tiers de la masse salariale, plus de 300 personnes à la rédaction nationale et à travers le monde. Des décisions critiquées notamment par les syndicats et de nombreuses organisations de protection des journalistes qui voient en ces changements une stratégie politique voulue par le patron d'Amazon pour museler le quotidien. Pour beaucoup, le départ de Will Lewis et son remplacement par son adjoint est loin d'être une surprise, même s'il se fait de façon assez brusque. Il avait perdu la confiance des salariés du poste. Certains ont d'ailleurs salué l'annonce de son départ. Lubna Anaki, New York, RFI.
À la une également ce matin, un regain de tension au Tigré.
La région du nord-ouest de l'Éthiopie ravagée par la guerre entre 2020 et 2022. Les affrontements entre le gouvernement éthiopien et les autorités locales avaient fait au moins 600 000 morts selon l'Union africaine. Des habitants du Tigré occidental administrés aujourd'hui par la région Amhara fuient depuis quelques semaines une nouvelle vague de discrimination et viennent grossir les rangs des camps de déplacés, notamment à Chiré. Reportage Marlène Panara.
Des dizaines d'abris surmontés de bâches blanches s'alignent les uns derrière les autres à même la terre poussiéreuse. Ce terrain appartenait autrefois à une école, aujourd'hui désertée. Des milliers de déplacés arrivés récemment tentent de survivre. Tigiste est à Chiré depuis 8 mois.
Mon mari a été arrêté à Dancha et c'était lui qui subvenait aux besoins de la famille. Il a été arrêté juste parce qu'il était tigréen. Alors quand il a été relâché, il est venu ici et je l'ai suivi peu de temps après.
Le camp accueille aussi des personnes qui ont d'abord fui le Tigré occidental pour le Soudan avant de revenir en Éthiopie à cause de la guerre dans le pays voisin. Mais pour ces réfugiés comme Million Mehari, 15 ans, impossible de rentrer dans l'ouest du Tigré.
Je ne peux pas y retourner maintenant car il n'y a pas de paix là-bas. Moi, je veux simplement réaliser mes rêves, devenir pilote ou peut-être chanteuse ou danseuse. Mais je souffre dans ce pays parce que je vis ici et dans cet endroit, il n'y a pas assez pour survivre.
Depuis 3 ans, le camp ne cesse de grossir et les conditions de vie sont de plus en plus difficiles, déplore Agos Gebremichael, coordinateur du camp.
Des tentes sont construites chaque mois, chaque fois que de nouveaux déplacés arrivent. Mais l'aide fournie n'est pas suffisante, car elle n'est délivrée qu'à environ 4000 personnes sur 30 000.
D'après Agos Gebremichael, 4 femmes sont mortes de faim cette semaine. Marlène Panara, Chiré, RFI.
7h09 à Paris. En France, Sébastien Lecornu tourne la page du budget et cherche à exister autrement désormais.
Le Premier ministre français qui aura entièrement consacré ses premiers mois à Matignon à la loi de finances, il se fait entendre dans une longue interview à la presse régionale ce week-end sur d'autres sujets, notamment l'immigration, Aurélien Devernois.
Il faut mettre fin à la préhistoire numérique. Ce sont les mots de Sébastien Lecornu, dans laquelle évoluent les services de délivrance des titres de séjour. Des dizaines de milliers de dossiers sont en effet en souffrance dans le pays. La solution proposée par le Premier ministre, une application gérée par l'intelligence artificielle qui réduirait les délais de réponse. Autre dossier prioritaire, la reprise de négociations avec les 24 pays dont la France accueille le plus de ressortissants hors touristes. Objectif, une stratégie sur mesure pour chaque pays sur les visas reconduits à la frontière et laissez-passer consulaire. Dans ce cadre, une renégociation de l'accord de 1968 avec l'Algérie doit aboutir en urgence, selon Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron devrait prendre des initiatives sur le sujet dans les prochaines semaines, annonce le Premier ministre. Enfin, pas question de remettre en cause l'aide médicale d'État, les soins pour les étrangers sans papier en France, mais Sébastien Lecornu annonce avoir signé un décret contre la fraude à l'AME, devant économiser 180 millions d'euros, soit 15% du budget annuel du dispositif, en attendant une réforme plus profonde, mais les choses ne sont pas prêtes à ce stade, conclut prudemment le Premier ministre.
Aurélien de Vernois et la France, sous la pression médiatique et judiciaire, aura eu raison de Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, dont les liens avec le milliardaire et criminel sexuel Jeffrey Epstein ont été révélés cette semaine après la publication de nouveaux documents par la justice américaine. Après l'ouverture d'une enquête judiciaire vendredi, et alors que le gouvernement le poussait vers la sortie, Jack Lang a proposé hier sa démission de l'Institut du Monde Arabe qu'il présidait. L'Élysée a dit prendre acte de cette décision. Le processus de désignation de son successeur est déjà lancé.
Enfin, Julien, c'est un sommet que jamais aucun humain n'a foulé.
Et si nous partions, Pierre, à l'assaut du mont Kami au Japon? Ne chaussez pas tout de suite vos crampons. Vous pouvez le faire chez vous grâce au jeu Kern, sorti la semaine dernière, une petite production française qui nous propose de nous mettre dans la peau d'une alpiniste au pied de son plus grand défi. Le jeu connaît un succès inattendu. Il s'est déjà vendu à plus de 300 000 exemplaires et ce n'est pas pour rien, nous dit Nathanaël Vitran.
All I ever wanted was to touch eternity.
Kern est d'abord un jeu d'escalade. Manette en main, nous voilà en contrôle d'Ava, une pro de l'alpinisme décidée à devenir la première à atteindre le sommet du légendaire Mont Kami. Plus précisément, collé contre la paroi, le joueur ou la joueuse contrôle un à un les quatre membres d'Ava. Comme le ferait un grimpeur, il faut lire la montagne, repérer les aspérités dans la roche où l'on pourra caler un pied, glisser une main, suivre les failles qui mèneront Ava au bout d'une paroi. Tout au long de l'ascension, on souffre avec Ava. Les mains deviennent moites, sa peur devient la nôtre. On hurle avec elle à chaque chute. Et on souffle de soulagement quand on parvient finalement à se hisser sur un plateau. Kern est un jeu exigeant, mais qui récompense le joueur de découvertes inattendues et poétiques, de paysages à couper le souffle. Impossible de ne pas penser en jouant au récit de Roger Frison Roche ou au Sommet des Dieux, le manga magistral de Taniguchi.
Hey, wait for me! Marco, nice to meet you.
Les rares rencontres soulignent à quel point Kern est en vérité un jeu sur la solitude. Une invitation à la lenteur et à l'introspection qui nous force à nous demander, et nous, quelle montagne nous obsédons-nous à escalader?
Nathanaël Vitran et le jeu Kern, production du petit studio français The Game Bakers, disponible sur PC et sur la PlayStation 5. Pierre, je sais désormais ce que vous ferez cet après-midi.
Du moment que j'ai les deux pieds au sol, Julien, pas de problème. Notre cher pas de l'information, Julien Coquel-Roem. À tout à l'heure, Julien. 6h13 en temps universel, les sports. Trouve Antoine Grenier, le football à la une et un classique en clôture de la 21e journée de Ligue 1.
Le match le plus attendu de la saison, le Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille, un PSG deuxième du classement face à son meilleur ennemi, quatrième et vainqueur du classique aller au Vélodrome, c'était au mois de septembre. Les Parisiens ont pris une première revanche en renversant le trophée des champions face aux Marseillais il y a pile un mois. Nouvel épisode de cette rivalité ce soir avec une ambiance qui s'annonce intense au Parc des Princes. Luis Enrique, l'entraîneur parisien, apprécie ces moments, mais il appelle tout le monde à rester calme.
Chaque fois qu'on joue ce type de match, et je me rappelle les matchs qu'on a joués à Marseille, c'est une ambiance différente. C'est la même chose que demain on va voir au Parc des Princes, parce que l'ambiance est incroyable. C'est une ambiance de football. Et ce que j'aimerais, c'est de ne pas avoir de violence, de aucun type. Et nous chercherons à jouer un match, un très bon match offensif, avec l'attention, parce que c'est la différence dans ce type de match, mais rien. Profiter des matchs, profiter de comme joue le Paris Saint-Germain, et c'est ce que j'aimerais voir. Et
Bien sûr, l'ambiance est importante pour nous, l'ambiance de soutien à l'équipe, et j'espère voir la même chose que tous les autres classiques.
PSG-OM, coup d'envoi 19h45, temps universel, un dimanche de Ligue 1 qui débute à 14h TU avec Nice-Monaco, puis à 16h15, temps universel, Angers reçoit Toulouse, Auxerre accueille le Paris FC et Strasbourg se rend au Havre.
Hier, Lens et Lyon ont gardé le rythme du haut de tableau.
Les Lensois, leaders après leur succès 3-1 sur Rennes, menés dès la 8e minute et réduits à 10 avant l'heure de jeu, les Sang et Or n'ont pourtant pas plié face aux Bretons, un caractère dont ont également fait preuve les Lyonnais, eux aussi réduits à 10 à l'heure de jeu, après l'exclusion du Brésilien Hendrick. Mais l'OL est allé chercher la victoire 1-0 sur la pelouse de Nantes et grimpe au troisième rang. En milieu de tableau, Brest s'impose 2-0 sur Lorient.
Ailleurs en Europe, Arsenal continue sa course en tête.
Les Gunners, vainqueurs de Sunderland 3-0, de quoi porter leur avance sur Manchester City à 9 points avant le match des Citizens à Liverpool ce dimanche. En Espagne, le Barça reprend ses distances grâce à une victoire 3-0 sur Mallorca. Le Real, lui, joue Valence aujourd'hui.
Et puis les Jeux Olympiques d'hiver pour conclure, deuxième journée consacrée aux épreuves de ski alpin et après la descente masculine, place aux dames sur la piste de Tofané.
Tous les regards vont se tourner vers la doyenne et pourtant actuelle leader de la saison dans la spécialité, Lindsey Vonn. Sortie de sa retraite fin 2024, l'américaine de 41 ans réalise un dernier rêve olympique alors qu'elle vient de subir une rupture des ligaments croisés du genou gauche. C'était à la suite d'une chute à Crans Montana le 30 janvier. Un énorme coup dur qui ne l'a pourtant pas découragé de prendre le départ, car aussi sérieuse que soit sa blessure, elle en a vu d'autres.
J'ai dû relever beaucoup de défis au cours de ma carrière. J'ai toujours repoussé les limites. Et la descente, c'est un sport très dangereux. Tout peut arriver. J'ai été blessée plus de fois que je ne voudrais me l'avouer. Mais ce sont les cartes que la vie m'a données et je vais les jouer du mieux que je peux. Rien n'est parfait dans la vie, mais à chaque fois que je suis tombée, je me suis toujours relevée. J'ai échoué autant que j'ai gagné. Et heureusement, mon expérience m'a donné beaucoup de confiance. Je sais ce que mon corps peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je me suis déjà retrouvée dans cette situation. Je sais comment y faire face et je peux l'assumer.
Lindsey Vonn avec Christophe Diremzian, première concurrente de la descente féminine à partir de 10h30 temps universel. Un riche programme ce dimanche avec les grands débuts du biathlon à Anterselva avec le relais mixte 4x6 km. L'équipe de France, vice-championne olympique et double championne du monde en titre, fera figure de favorite.
Et rendez-vous aux alentours de 13h temps universel. Merci beaucoup Antoine Grenier, c'était les sports. Une question un peu angoissante maintenant. Le monde est-il sur le point de vivre une nouvelle course aux armements? La question, eh bien, elle se pose alors que le dernier traité de désarmement nucléaire liant États-Unis et Russie a expiré jeudi dernier, un tournant majeur dans l'histoire du contrôle de la prolifération depuis la guerre froide. On en parle dans Ligne de défense avec Franck Alexandre.
New Start avait été signé entre Washington et Moscou en 2010 pour solder la guerre froide et limiter les arsenaux. Mais ce n'est pas parce que ce mécanisme disparaît qu'il faut nécessairement s'attendre à une nouvelle course aux armements entre Russes et Américains, estimait Loïse Fayet, chercheuse et responsable du programme dissuasion et prolifération à l'IFRI.
L'expiration de New Start ne veut pas dire automatiquement augmentation des arsenaux nucléaires russes et américains, peut-être un peu plus de diversification des arsenaux plutôt que l'augmentation des arsenaux nucléaires. Et puis, d'une façon peut-être assez cynique, rappelons que les traités New Start imposaient des limitations à 1550 têtes nucléaires stratégiques déployées, c'est-à-dire des ogives en permanence montées sur des missiles. Ça suffit pour détruire plusieurs fois la Terre. Donc, en réalité, qu'il y ait 1500 ou 1700 têtes nucléaires stratégiques, ça ne change pas énormément les choses.
L'expiration du traité marque la transition, donc, vers un ordre nucléaire moins encadré. Et l'inquiétude vient de l'ambition d'un troisième acteur, la Chine, dont l'arsenal nucléaire est en pleine expansion.
La Chine est passée d'environ 250 têtes nucléaires en 2020 à plus de 600 aujourd'hui. Si la Chine continue sur cette trajectoire, les États-Unis feraient face à deux compétiteurs nucléaires. Donc c'est l'une des justifications derrière cette expiration de New Start sans solution de remplacement. Donald Trump veut trouver un nouvel accord avec la Chine, éventuellement trilatérale, États-Unis, Russie, Russie-Chine. Ça semble assez improbable, parce qu'aujourd'hui, la Chine n'est pas du tout intéressée par des accords de maîtrise des armements, et ça s'inscrit d'ailleurs dans une utilisation, disons, désinhibée de la menace nucléaire, et puis plus largement de la force, comme on peut le voir en Ukraine ou en Iran.
Les puissances régionales non dotées de l'arme nucléaire pourraient rapidement faire bouger leur ligne. Il faudra donc surveiller étroitement la conférence de réexamen du traité de non-prolifération qui aura lieu en avril prochain, pointe Héloïse Fayet.
Là, il y a beaucoup d'enjeux. Si jamais on se rend compte que le traité de non-prolifération nucléaire est affaibli, ça pourrait pousser la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, la Turquie, pourquoi pas, à avancer vers un programme nucléaire militaire. C'est inquiétant, en fait, au niveau du droit international et de la régulation.
La France, seule puissance nucléaire de l'Union européenne, plaide toujours pour un système international de maîtrise des armements. Mais si les compétiteurs n'ont plus de limites, Paris doit-il rester dans une logique de stricte suffisance ou se donner les capacités techniques d'augmenter son arsenal? Le discours d'Emmanuel Macron sur la dissuasion prévu fin février pourra peut-être éclairer ses choix.
La ligne de défense avec Franck Alexandre, c'est à retrouver sur RFI.fr et sur toutes les applications de podcast. Les Jeux Olympiques d'hiver, maintenant, c'est parti en Italie depuis vendredi soir dans les Alpes européennes, habitués de la compétition, ramenant sur le devant de la scène ces images familières de pistes enneigées, familières en tout cas sur le vieux continent, puisque les sports d'hiver ne se pratiquent pas toujours là où on les attend. Loin des Alpes, on skie aussi dans des régions inattendues que l'on vous propose de découvrir ce matin dans le Tour du Monde des correspondants. Première étape, au Liban, avec ses chaînes montagneuses qui se jettent dans la Méditerranée, le pays du cèdre est l'un des seuls endroits au Moyen-Orient où l'on peut pratiquer un ski de qualité, Paul Ralifet.
Le Liban compte 6 stations de ski qui répondent globalement aux normes internationales en termes de qualité et de sécurité. L'avantage pour les skieurs est que les stations ne sont pas loin des villes côtières. Par conséquent, les trajets pour y accéder ne sont pas longs. Situées sur les crêtes des montagnes du Mont Liban, les pistes font face à la Méditerranée et offrent des paysages d'une beauté imprenable. La qualité et la quantité des neiges cette année ont permis l'ouverture des stations dans la première moitié de janvier, alors que l'année dernière, il a fallu attendre le 15 février. Dès le premier jour, les pistes ont été envahies par des Libanais, dont beaucoup venus d'outre-mer, mais aussi par des ressortissants européens et des pays du Golfe. La saison s'annonce longue cette année, ce qui permettra au Liban de rester fidèle à sa réputation, l'un des rares pays au monde où l'on peut skier dans la matinée et bronzer sur une plage méditerranéenne l'après-midi.
Allez, direction le Maroc, pays plus célèbre là aussi pour les dunes ocre de son désert que pour ses pentes enneigées. Pourtant, à moins de 100 km de Marrakech et de sa palmeraie, dans les montagnes du Haut Atlas, se trouve l'une des rares stations de ski du royaume, Oukaïm Den. Mathias Reynal est perché à 2600 mètres d'altitude.
Oui, et l'hiver se déploie ici un décor féerique. Près du plus haut sommet d'Afrique du Nord, des pistes de ski attirent chaque année des milliers de touristes, beaucoup de Marocains. Lors des mois les plus froids de l'année, la neige peut parfois tomber en abondance sur les montagnes du centre du royaume. Ça a été le cas cette année. Les premiers flocons ont recouvert Oukaïm Den en décembre, à point nommé au moment des vacances scolaires. Avec ses infrastructures vieillissantes, Oukaïm Den est aujourd'hui en quête de modernisation, mais le processus de restructuration de la station patine. Et puis, si l'on connaît actuellement une saison exceptionnelle, il ne faut pas oublier que les chutes de neige se font de plus en plus rares et imprévisibles. Conséquence, les flux touristiques ont tendance à se concentrer sur des périodes courtes avec les effets négatifs que cela produit, notamment l'accumulation de déchets. Une association environnementale a dénoncé récemment l'état écologique catastrophique d'Oukaïm Den et appeler les autorités à réagir.
Au Chili maintenant, les pistes de ski se trouvent à peine 2 heures de la capitale Santiago et de son aéroport. Les hautes montagnes de la cordillère des Andes sont enneigées à partir du mois de juin, puisque les saisons sont inversées chez vous, Naïla de Rouanet, dans l'hémisphère sud.
Et oui, ici c'est en juillet et en août que les stations de ski, toutes situées entre 2500 et 3500 mètres d'altitude, font le plein. Les plus grosses se trouvent à un peu plus de 50 km de la capitale et sont très prisées des Brésiliens et des Argentins. À Santiago, il y a même des boutiques d'articles de ski où tout est écrit en portugais. Et puis il y a les athlètes européens aussi qui viennent au Chili à cette période pour pratiquer leur discipline. L'année dernière, en vue des JO d'hiver, des sportifs d'une quinzaine de pays La France, l'Autriche, la Slovénie ou encore la Suisse se sont entraînés dans la station de Coralco, plus petite et plus éloignée de Santiago, mais avec bien moins de monde. Pour ce qui est des Chiliens, seuls les plus aisés peuvent se permettre des week-ends de glisse, car les forfaits sont très chers, parfois même plus chers que dans certaines stations européennes, alors qu'ici, le salaire minimum s'élève à peine plus de 530 euros.
Et autre pays que l'on n'associe pas forcément au ski et au sport alpin, et c'est un euphémisme, l'Australie. Grégory Place, vous êtes notre correspondant à Sydney. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a quelques stations de ski chez vous et de la neige y tombe tous les ans, mais à cause du réchauffement climatique, de moins en moins.
Oui, absolument. C'est un déclin constant puisque depuis les années 50, l'épaisseur de la neige tombée diminue d'un demi centimètre chaque année. Résultat, certaines stations qui étaient très populaires par le passé, c'est le cas par exemple de Kiandra, située à 1400 mètres d'altitude, ne sont aujourd'hui plus suffisamment enneigées pour pouvoir y faire du ski. Il faut donc aller encore plus haut pour continuer à skier, mais là aussi sur des périodes de plus en plus courtes et avec une très forte dépendance à la neige artificielle. Elle recouvre ainsi 50% du domaine skiable de la célèbre station Perisher. Alors certains prédisent d'ailleurs qu'il ne sera plus du tout possible de skier en Australie d'ici à 2050, en tout cas en pleine nature. Et d'ailleurs, un projet de ski en intérieur a reçu en décembre dernier le soutien d'investisseurs chinois. Cette piste doit ouvrir en périphérie de Sydney en 2028.
Et voilà, vous savez désormais où partir si vous avez déjà eu la chance d'écumer les pistes européennes. C'était le tour du monde des correspondants sur RFI. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi, chantait le trio d'humoristes français Les Inconnus. Ça pourrait également être le slogan de C'est dans ta nature aujourd'hui, la chronique biodiversité de Florent Guignard. Salut en effet cette semaine le rôle des insectes nettoyeurs. Florent, ils rendent de nombreux services à l'humanité. I want to break
free. Vous en avez assez de faire le ménage, voici l'armée silencieuse ou presque des petites mains qui nous débarrassent des déchets, enfin ce sont plutôt les petites bouches de petites mouches. La mouche soldat noir pond ses œufs dans les poubelles et le compost, elle valorise nos déchets et les transforme en engrais. Les mouches, elles nettoient aussi les plaies. Depuis l'Antiquité, quand il n'y avait pas d'antibiotiques, on appelle ça l'asticothérapie, pratiquée aussi à Dien Bien Phu par l'armée française à court de médicaments. Les larves, pour se nourrir, détruisent les tissus infectés et leurs sécrétions ont une action antiseptique. Et aujourd'hui en France ou aux États-Unis, les asticots sont officiellement reconnus comme des médicaments. Et ce soir, je suis prêt pour faire le ménage. Yeah, yeah, yeah. Ce soir, je suis prêt pour faire le ménage. Au milieu du XXe siècle, l'Australie a dû faire appel à des champions du nettoyage parce qu'il n'y avait aucun insecte capable de décomposer les bouses des vaches importées. Plus d'un million d'hectares de pâturage perdus chaque année, l'Australie a donc fait venir des bousiers, ces petits scarabées célèbres, pour rouler des boules de bouse dont ils se régalent.
Tu devrais te réjouir qu'il y ait un peu de merde à nettoyer.
Oui, mais le problème, c'est que les vermifuges qu'on donne au bétail menacent aujourd'hui les populations de bousiers. Face à la pollution plastique qu'il génère, l'humain aurait pu avoir un allié, le ver de cire. C'est la chenille d'un papillon qui peut vivre plus d'un an, nourri uniquement de polyéthylène. Lors d'une expérience, une soixantaine de larves ont mis une semaine à dévorer un sac plastique. Pas mal, mais ça ne suffira pas vu l'ampleur de la tâche et les 400 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année. On ne peut pas toujours compter sur les autres animaux. On passe à la question.
Y a-t-il des femelles libérées ?
Qui veulent s'amuser, libérées du patriarcat ? Oui, c'est le cas chez le jacana noir, un oiseau d'Amérique du Sud. La femelle, beaucoup plus grosse que le mâle, impose sa loi. C'est elle qui se bat pour s'accoupler et défendre le territoire. Et une fois qu'elle a pondu ses œufs, c'est uniquement le mâle qui les couve et qui s'occupe ensuite d'élever les petits tout seul pendant de longues semaines, presque un père célibataire, pendant que la femelle s'accouple avec d'autres partenaires. Il s'agit de multiplier les pontes pour maximiser sa descendance, joindre l'utile à l'agréable.
Des C'est dans ta nature avec Florent Guignard. Vous y réfléchirez peut-être maintenant à deux fois avant de sortir votre tapette à mouche. Il est 6h28 en temps universel. Restez avec nous dans un tout petit peu plus d'une minute. Le retour de l'actualité africaine sur la Radio du Monde.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Alors demain, tous végétariens, on change de modèle, on renonce à l'animal, vraiment? Mais y a-t-il sur Terre assez de surface pour produire les végétaux pour nous nourrir? On pourrait peut-être juste manger moins de viande, garder les œufs, le lait. C'est cher d'être végane, non? Et vous, qu'en dites-vous? L'assiette du futur en question tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence de Navy sur RFI.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Complotisme, dérives sectaires, groupuscules ultra-violents, collectifs féministes identitaires. Intriguée par son collègue prof de philo, Mathilde, qui enseigne l'histoire géo au lycée, découvre les unes après les autres les différentes facettes de la droite la plus extrême. Le blanc du drapeau, une enquête immersive.